gueule.
Pas dit s'il fallait que je commence. Hein? Je peux commencer? Française, Français, dans ce qu'il va advenir de la France, jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
racist homophobes. Aryan nations and hammer skins. You can wear my nuts on your Nazi chins. I love a man in uniform.
And just what exactly are the great historical accomplishments of your race that make you proud to be white? Capitalism? Slavery? Genocide? Sitcoms? This is your fucking white history, my friend. So why don't we start making a history worth being about and start fighting the real fucking enemy?
Swastikas and Klan robes. Sexist, racist, homophobes. This one's for the master race. My brown power ass in your white power face. Kill them all and let a Norse god sort them out.
Hey, yeah, salut. Il est vendredi, on est 19h et c'est donc Frisson sur l'antenne de Canal B, la meilleure radio du monde d'après Ludo. Ludo, comment ça va?
Ça va bien et toi? Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Bonsoir notre invité.
Bonsoir, bonsoir les inviteurs.
Salut Vivian.
Salut,
donc,
salut.
On te présente quand même si t'es quasiment un régulier.
Ouais, enfin, ouais, ouais.
Ouais, tu commences à devenir régulier.
C'est vrai.
La dernière fois c'était avec Wolfgang Amadeus Bordiga, je crois que la dernière fois que t'es venu.
Non, t'es revenu après.
Ah, oh, tu passes trop souvent.
Mais
en fait.
J'y pensais tout à l'heure, mais je sais même plus.
La dernière fois qu'il est venu, c'était avec le Jarl.
Oui, c'était à propos du Jarl, oui, j'avais oublié ça. Ouais, je suis intervenu quelques fois sur l'extrême droite, ou même, ouais, ou une fois avec Wolfgang Amadeus Bordiga sur sa musique électronique.
Oui, ok. Enfin, c'est vrai, ouais, voilà.
Mais merci de rester fidèle.
On peut te présenter, je te laisse Guillaume présenter Vivian pour les auditeurs qui te découvrent. Les auditoristes.
Ben oui, alors déjà, tu es un auteur,
ouais.
Un écrivain, comme on dit, nous, dans le jargon.
C'est vrai, oui, je me voilà. Définis plus subtilement et plus modestement comme un artiste et un génie, mais tu peux dire écrivain si tu veux.
Voilà, et donc notamment, on t'avait reçu à l'occasion de la sortie d'un livre sur le célèbre club du Havre, puisque c'est là d'où tu viens.
C'est vrai, le Havre Athletic Club, fondé en 1872, le doyen des clubs français.
Voilà, mais aussi pour retour sur une saison à Gaza, puisque tu as fait, il y a un certain nombre d'années maintenant, un séjour là-bas, et que tu t'intéresses toujours énormément à la question...
Ouais, en fait, que ce soit Gaza ou le Havre, je me suis spécialisé dans les villes portuaires détruites à cause de la Grande-Bretagne.
Okay.
Voilà.
Ok, c'est une belle synthèse déjà, mais on va pouvoir rentrer dans les détails par la suite. Et tu as souhaité aussi, en tant qu'invité, inviter quelqu'un. Enfin, c'est comme une soirée dans un appart, quoi. Tu ramènes...
Ouais, on l'attend encore, on ne sait pas si elle viendra, parce qu'elle est en train de faire une autre interview pour un podcast étudiant, je crois. Elle est chez la concurrence en ce moment, mais elle viendra peut-être tout à l'heure.
Ok.
Une étudiante de Sciences Po.
Et donc l'actu locale, c'est que tu participais hier à une soirée de soutien à Rennes, à la BAM. Sur la culture palestinienne. Donc tu intervenais là-bas, j'imagine, au titre de tes connaissances et du livre que je viens d'évoquer.
Ouais, 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 c'était donc au bâtiment à Modelé, qui est un lieu géré par tout un tas d'associations donc, dans le quartier de Clenay à Rennes. C'était organisé par les étudiants de Sciences Po. Je trouvais ça rassurant au moment où la bourgeoisie en pleine fascisation de dire qu'il reste quand même quelques exceptions au sein de cette classe sociale.
Mais on est à Rennes quand même.
C'est vrai, on est à Rennes. Mais ouais, ouais, non, mais par exemple, entre les étudiants de Sciences Po et les étudiants de Rennes 2, bah, il y a à la fois évidemment des différences, même des différences de look, quoi. On voit parfois un peu l'origine sociale des uns et des autres. Et en même temps, il y a quand même une porosité dans les cultures militantes. Enfin, je pense que. Les étudiants de l'IEP de Rennes, s'ils étaient dans une ville où il n'y avait aucune culture militante, etc., ils ne se politiseraient pas de la même manière, ou alors il n'y aurait personne pour les soutenir, etc. Quoi.
Okay.
Et donc, ouais, c'était une soirée organisée par ces étudiants-là. Il y avait vraiment beaucoup de monde, genre peut-être 200 personnes. Quoi. Il y avait à la fois une dimension politique sur l'histoire de la Palestine, etc., une dimension caritative, puisque les fonds récoltés servaient à financer Palmed, qui est une ONG médicale franco-palestinienne, qui envoie des médecins en Palestine, qui aide à la formation de médecins palestiniens, etc. Et aussi une dimension culturelle, avec la projection du documentaire d'Iyad Alastal, qui est un réalisateur palestinien, un documentaire qui s'appelle « Pour l'honneur de Gaza », qui est diffusé en ce moment dans quelques salles en France, et donc qui est un documentaire qui a été monté en France, mais qui a été filmé à Gaza, en fait. C'était les personnes sur place qui réalisaient des portraits un peu emblématiques de la vie durant le génocide en cours à Gaza. Il y avait aussi de la danse palestinienne, etc. Vraiment une idée de continuer à faire vivre la culture palestinienne. Parce qu'un génocide, c'est pas juste tuer un certain nombre de gens, quoi. C'est aussi détruire ce qui constitue un peuple en tant que peuple. donc avec sa souveraineté, sa culture, etc.
Ouais, c'est difficile d'enchaîner. Je me disais, il faut qu'on désannonce les titres qu'on a passés, puis je me sens con, en fait, de faire ça. Mais bon, allons-y. Il y avait The Cure, d'abord, 17 Seconds, extrait de l'album du même nom.
Alors que tu voulais mettre un autre morceau du même album, mais je me suis trompé.
Ouais, ouais.
Et ouais, désolé, on écoutera At Night une autre fois.
Oui. C'est important de produire un aveu et un acte de contrition publique,
voilà,
je pense.
C'est fait. Non, parce que je vois bien que t'es déçu.
Ouais, bien sûr, ouais.
La deuxième vérité, c'était propagandi. Du coup, moi, j'ai vraiment passé le morceau que j'avais envie de passer. C'est l'avantage d'être à la technique. Propagandi en 96, c'était leur deuxième album, Let's Talk More Rock. Et on écoutait le morceau The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist.
Ok. Bon, bah, c'était un point de vue. Hein.
C'est un point de vue.
Sinon, ça va? Vous étiez à la manif hier ou pas?
Ouais, moi j'ai fait un coucou rapide, j'avoue. J'étais plus participant le 10 septembre.
Ouais.
T'avais chaud sous ton uniforme?
Ouais. Ouais. Bah oui, je travaille moi ces jours-là. Et toi, Vivian, t'y étais?
Oui, j'y étais. Bah, y avait plus de monde que le 10. Oui. Le 10, c'était la jeunesse de gauche, quoi. Ce qui fait beaucoup de monde à Rennes, quoi.
Il y avait énormément de monde le 10. J'étais étonné de voir autant de monde. Agréablement surpris.
J'étais étonné de la jeunesse aussi, effectivement.
Le 10.
Je me suis arrêté à un moment donné sur le bord, là. J'ai vu défiler les gens et vraiment, il y avait une moyenne d'âge qui était entre 20 et 25.
Ouais, c'était très étudiant. Alors qu'hier, il y avait à la fois toujours autant de jeunes, et en plus, il y avait beaucoup plus de salariés. Enfin, par exemple, le cortège de la CGT était vraiment beaucoup plus fourni que le 10.
Balèze, il y avait toute la Bretagne, toute la CGT Bretagne, je crois, qui était là, quoi.
Ouais.
Et alors, les scores là, de 500 000 en France, ça vous déçoit? Ça vous rassure? Vous voyez ça comment?
Ah, c'est révélateur, tu ne cites que le chiffre de la police.
Ouais.
Celui de la CGT de 1 million.
Il est corporate.
C'est mon chiffre.
Il est corporate, c'est normal.
Non, je pense que c'est un bon début. Après, il faut voir ce qui va se passer pour la suite, quoi. Enfin, à la fois en termes d'affluence et aussi même en termes d'agenda, quoi. Parce que c'est pas en manifestant deux fois par mois avec deux semaines d'écart entre chaque manif, etc.
Même s'il y avait 2 millions de personnes.
Ouais.
Si on a bien noté les choses, que
on a bien noté que les manifestations ne modifiaient pas grand-chose ces dernières années. Il y a comme une sorte de...
Oui, non, mais il faut voir. Donc, si à moyen terme, il y aura des grèves reconductibles, des blocages de l'économie, etc. Quoi. C'est pas exclu, quoi. C'est pas certain non plus. Enfin, voilà, même le 10, c'était déjà un dépassement parce que les syndicats n'avaient pas encore appelé à une date. C'est des gens sur les réseaux sociaux, des associations, etc., qui mettent la pression, qui lancent cette date. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe après... L'histoire n'est pas écrite, je suis ni extrêmement optimiste, ni totalement désespéré.
T'es, entre
je suis le juste
quoi.
Milieu, je suis la raison, avec un grand R.
Ok, tu te dis, le corps nu, finalement, ça peut être cool.
T'es pas déconné non plus.
Pourquoi pas négocier avec lui s'il y a une grève générale et un blocage de l'économie?
Vous avez vu la petite news du jour, il a menti sur son niveau de diplôme.
Oui, ça fait un moment que ça tourne un peu, mais
En fait, il a pas eu son BAFA, c'est ça?
Non, il prétendait à un master de je ne sais plus.
Ouais, master de droit.
De droit, qu'il n'a pas eu en fait.
Ah ouais.
Ça tournait déjà sur les réseaux, des gens qui faisaient remarquer que son LinkedIn avait évolué à partir du moment où des gens ont commencé à le faire remarquer sur les réseaux. Voilà, mais comme le Jarl par exemple, qui n'était pas autorisé à être agent de sécurité.
Ah oui.
Ouais.
Ok.
Entre autres.
Mince.
Ouais.
C'est un copain de Retailleau, maintenant il a pris sa carte à LR, tu me disais.
Ouais, il est à LR depuis un an à peu près. Quand Retailleau est venu la dernière fois en Bretagne, il y a quelques mois, le Jarl était sur l'estrade. Enfin, il y a une vraie porosité entre la droite et l'extrême droite. Les deux ont à peu près lâché depuis quelques mois quand même. Quoi.
Oui, puis Retailleau, on peut parler d'extrême droite, je pense.
Oui. Bah, il a commencé sa carrière au MPF avec De Villiers.
Je pense pas qu'on puisse dire porosité même. C'est quasiment la même piscine.
Oui.
Et elle n'est pas souvent nettoyée. Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on écoute un petit morceau. Tu as ramené des choses, Vivian.
Ouais, puisqu'on parle de la Palestine, pourquoi pas le morceau Nakba d'Emmanuel Emo.
Comme par hasard.
Qui est à vrai, comme moi. Comme Vicage Lorasso, Laurent Roquet, Edouard Philippe.
Little Bob.
Voilà.
Ouais.
Steve Mandanda.
Ouais.
Donc voilà.
Il y en a d'autres des vrais célèbres ou non? T'as fait c'est
Jérôme Le Banner.
C'est qui?
Un champion de MMA et de kickboxing dedans.
Ok.
Des grandes stars des sports de combat, qui a fait aussi des comédies, un peu des nanars, genre Astérix et je sais pas quoi, il est dedans.
Ok. Obélix, je crois que c'était Obélix.
C'était la doublure d'Obélix.
Ah, c'est Obélix. Ok. Et donc, ouais, Emmanuel Emo, donc chanteur du Havre, qui fait quelque chose à mi-chemin entre, je sais pas, la chanson française, le rock, et ça, c'est un morceau qui est sur son dernier album, qui s'appelle Nakba, donc en rapport avec la Palestine. Donc Nakba, ça veut dire la catastrophe, c'est l'expulsion des Palestiniens en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël.
Les souvenirs s'étaient sur la terre muette, le repas chaud refroidi dans l'assiette. Si vite parti, quelqu'un vivait là avant que l'on façonne. Avant que l'on déforme une valise pleine du pays clandestin, tombe sur le sol de l'unique chemin. On se dit qu'il est loin ce pays déchiré, si loin de nos regards et par-delà les eaux. Des hommes sont venus et au-dessus des lois ont pris vos terres, vos ports et votre voix. Trop vite accablé, la Palestine était là avant que l'on bâtisse, avant que l'on façonne. La haine mûre le sang, la haine mûre le sang, la haine mûre le sang, à cœur ouvert. Ces enfants qui tombent.
toujours dans Frisson sur Canal B. À l'instant, c'était
Wolfgang Amadeus Bordiga, sélectionné par notre invité Vivian Petit.
Ouais, c'est bah, quelqu'un avec qui j'étais venu, donc une des dernières fois où je suis venu là. Ce morceau-là s'appelle Bassel, qui est donc un prénom arabe, qui était le prénom de Bassel Al-Arraj, qui était un militant et auteur palestinien, et en fait c'est sa voix qui est samplée sur le morceau. Enfin évidemment, on peut écouter le morceau sans être au courant de ça, et c'est avant tout de la musique évidemment. Et c'est un morceau qui est sorti donc sur une compilation l'été dernier qui s'appelle Summer Sampler Volume 1. Et donc Bassel Al-Arraj, c'était un auteur et intellectuel palestinien qui a été tué par Israël il y a 8 ans. Et donc c'était quelqu'un qui en Palestine menait une sorte de mission d'éducation populaire pour faire connaître l'histoire de la Palestine, qui organisait clandestinement dans les territoires occupés des visites des villes et des villages pour raconter à la population l'histoire des luttes en Palestine, de l'auto-organisation, etc. Il a été arrêté dans un premier temps par l'autorité palestinienne, donc qui est la police palestinienne chargée de gérer les territoires occupés, qui... c'est quand même une occupation assez particulière, parce qu'en fait, il y a une police indigène qui est chargée de veiller à la sécurité de l'occupant. Donc il a été arrêté d'abord comme ça, puis il était menacé d'une deuxième arrestation, cette fois par Israël. C'est le moment où il est passé dans la clandestinité. Il avait été donc tué par l'armée israélienne quelques mois plus tard. Et ces livres ont été publiés, ces textes ont été publiés ensuite en livre, à la fois en arabe et en anglais. Ça s'appelle en anglais I Found My Answers. Donc j'ai trouvé mes réponses, qui est une phrase de son testament. Et en fait, c'est une pensée qui m'a beaucoup touché, parce que il n'est pas nationaliste, en fait. Enfin, il y a même des textes et des passages très beaux où il explique qu'en fait, à l'aune de sa lecture d'auteurs comme Frantz Fanon ou Ali Shariati, il a cessé de croire que c'était une opposition entre Palestiniens et Israéliens, entre Arabes et Juifs, et qu'en fait, il peut... Si la Palestine, ça signifie la lutte contre le colonialisme, un juif qui lutte contre le colonialisme est plus palestinien qu'un policier palestinien qui veut l'arrêter, par exemple.
Ouais, ça c'est un élément que j'ai découvert en te lisant, c'est que effectivement il y a une police palestinienne qui, si j'ai bien compris, n'est pas forcément la même à Gaza et en Cisjordanie, qui collabore en fait avec l'État d'Israël.
Ouais, c'est justement. Ouais, non, c'est pas du tout la même en fait. Donc l'autorité palestinienne, elle a été mise en place dans les années 90. En gros, au début des années 90, il y a les accords d'Oslo, qui sont donc les accords entre Yasser Arafat, le leader palestinien, et Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, où l'OLP, donc l'Organisation de Libération de la Palestine, reconnaît Israël en disant qu'il va y avoir une solution à deux États. Mais de l'autre côté, Israël ne reconnaît pas la Palestine. Israël ne reconnaît que l'OLP comme interlocuteur. Et il y a une sorte de storytelling ou de récit qui est de dire « Ah mais il y avait un processus de paix, on aurait pu avoir deux États et ça a été empêché par les extrémistes des deux bords. » D'un côté les islamistes qui font des attentats, de l'autre côté l'extrême droite israélienne qui tue Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien. C'est une partie de la vérité, mais c'est pas toute la vérité, parce que entre la signature de ces accords et l'assassinat d'Yitzhak Rabin, la colonisation a continué. Et Yitzhak Rabin lui-même, quand il défend ces accords-là, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut déléguer la gestion de territoires palestiniens à des polices palestiniennes, à des institutions palestiniennes, qu'il ne s'agit pas de garantir leur souveraineté, mais que les Palestiniens appelleront ça un État s'ils le veulent. Et ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, avec donc l'autorité palestinienne qui réprime les manifestations de soutien à Gaza, qui arrête des Palestiniens, etc., c'est le prolongement de ça en fait. Et par exemple, la police palestinienne en Cisjordanie, elle a interdiction d'arrêter un colon israélien qui agresserait des Palestiniens. Elle ne peut arrêter que des Palestiniens en fait. Elle est là pour garantir la sécurité de l'occupant, c'est pour ça qu'elle est financée par l'Union Européenne. Et le gouvernement actuel, donc, qui va être, semble-t-il, reconnu par une partie des États occidentaux la semaine prochaine comme État.
Dont la France.
C'est le gouvernement de l'autorité palestinienne, avec son président qui a été élu il y a 20 ans, qui n'a jamais remis son mandat en jeu, et surtout avec un gouvernement qui est celui qui a perdu les élections, parce que la dernière fois qu'il y a eu des élections en Palestine, c'est le Hamas qui les a remportées. Et c'est suite au fait que les résultats des élections n'ont pas été reconnu que Hamas donc a pris le pouvoir par la force à Gaza, et donc il y a deux gouvernements, alors qu'il n'y a pas d'État, différents. Il y a celui du Hamas à Gaza et celui de l'autorité palestinienne qui mène, pour le dire pudiquement, une coopération sécuritaire avec Israël en Cisjordanie.
Et tu veux dire que c'est un territoire qui serait dirigé par des gouvernants qui n'ont pas été élus?
Ouais,
c'est complètement dingue.
Ouais, mais en fait, c'est ceux qui gouvernent la Cisjordanie, c'est ceux qui ont perdu les élections et qui mènent un gouvernement avec aussi des hauts fonctionnaires, des technocrates, etc. Et en fait, il s'agit de maintenir des institutions qui maintenant, depuis un moment, sont quand même en tension, évidemment, avec Israël. Enfin, évidemment que ça va beaucoup trop loin. Évidemment que les ambassadeurs palestiniens en France, nommés par l'autorité palestinienne, successivement, ils ont défendu la cause palestinienne, ils ont appelé à des sanctions contre Israël, ils ont dénoncé les massacres, etc. C'est aussi ça, l'autorité palestinienne. La réalité, elle est un peu duale, évidemment. Mais dans les territoires palestiniens occupés, les institutions de l'autorité palestinienne remplissent essentiellement une fonction de police et il peut y avoir à un certain moment donc des manifs en Palestine, en Cisjordanie notamment, contre l'autorité palestinienne, parce qu'elle arrête des Palestiniens, parce qu'elle réprime les manifs de solidarité avec Gaza, etc. Et par exemple, quand on pense à la reconnaissance de l'État palestinien par Macron, ce que je me dis, c'est que c'est aussi une manière de remettre l'autorité palestinienne au centre du jeu. Et en fait, dans le fond, ce que Macron reproche à Netanyahou, c'est que les choses sont trop brutales et que les choses apparaissent en toute lumière. Pendant longtemps, il y a eu ce mythe du processus de paix, c'est-à-dire que d'un côté, les États occidentaux faisaient du commerce avec Israël, vendaient même des produits des colonies en France, des entreprises comme Orange avaient des contrats avec l'armée israélienne pour les télécommunications, et en même temps, on disait « Non mais vous en faites pas, il y a un processus de paix, il suffit de la bonne négociation au bon moment, les bonnes personnes à la bonne place et il y aura deux États. » Et on, avec un peu de mauvaise foi, on décrivait l'autorité palestinienne comme l'embryon d'une indépendance. Là, ce qui apparaît en toute lumière avec le fait qu'Israël est en train d'annexer la Cisjordanie et de détruire totalement Gaza et de massacrer sa population, et bah évidemment, c'est que Israël n'a jamais voulu deux États. Israël l'a toujours dit et maintenant la factualité est suffisamment explicite pour que tout le monde le voit. Et c'est dans ce cadre-là donc que la France est obligée de sauver les apparences et donc de reconnaître l'autorité palestinienne comme un État, mais quasiment pour faire semblant de faire quelque chose et pour sauver les institutions qui peuvent l'être, quoi.
Et si j'ai bien compris, en écoutant Rima Hassan notamment, la question des deux États, elle est bidon pour énormément de Palestiniens.
Ouais, bah déjà parce que la majorité des Palestiniens vivent en exil. Et que leur droit au retour est reconnu par la résolution 194 des Nations Unies, droit au retour dans leur ville et dans leur village d'origine. Pas dans l'équivalent d'un Bantoustan qui aurait été créé sur 20 ou 15% de la Palestine historique où les habitants
sont des...
Bantoustan, enfin c'est le parallèle avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. En fait, où donc il y avait des endroits où des populations étaient concentrées avec aucune continuité territoriale. C'est un parallèle qui est souvent fait de dire que la Palestine c'est moins le paradigme de l'idée qu'il y aurait deux États séparés l'un de l'autre. Comme par exemple l'Ukraine-Russie, avec l'un qui envahit l'autre et donc de demander donc légitimement que les troupes russes sortent de l'Ukraine. En Palestine, c'est pas seulement ça, parce qu'en fait, il y a une imbrication. C'est un colonialisme de peuplement. Donc, il y a à la fois une partie de la population qui a été expulsée, qui a le droit au retour, mais on va pas les parquer dans des endroits surpeuplés qui sont déjà donc les petits territoires dans lesquels on a parqué les Palestiniens. Si Gaza, par exemple, c'est un des territoires les plus peuplés au monde, c'est parce que c'est là qu'ont été expulsés et concentrés les Palestiniens en 1948, au moment de la création d'Israël. Donc il y a déjà ce paradigme des deux États, il achoppe déjà sur ce truc-là de quid des réfugiés qui ont quand même le droit au retour dans leur ville et leur village d'origine. Ensuite, il y a les Palestiniens d'Israël, parce que, comme j'ai dit, il y a eu une expulsion au moment de la création d'Israël, donc 700 000 Palestiniens expulsés, mais il y en a aussi qui sont restés.
C'est ça la Nakba.
Ouais, c'est la Nakba, ça veut dire la catastrophe, c'est l'expulsion de 1948. Donc il y a 700 000 qui sont expulsés, certains dans d'autres territoires de Palestine, donc Gaza ou la Cisjordanie, parfois dans d'autres pays, en Syrie, au Liban, en Jordanie. Et il y en a qui sont restés, ceux qui vivaient notamment dans des villes où il y avait les troupes britanniques, où donc les milices sionistes qui allaient devenir l'armée d'Israël n'ont pas pu opérer, n'ont pas pu les expulser. Et donc il y a 2 millions de Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne aujourd'hui, mais qui sont des citoyens de seconde zone. Parfois leurs villages n'apparaissent même pas sur les cartes, donc ils vont pas être desservis en eau courante, en ramassage des ordures, etc. La répression quand il y a une manif est évidemment sans commune mesure avec la répression dans les villes où vivent les Israéliens juifs, et aussi un certain nombre de droits sociaux sont subordonnés au fait d'avoir servi dans l'armée israélienne. Donc un Palestinien qui a la citoyenneté israélienne, il va évidemment pas servir dans l'armée israélienne, donc il va pas être concerné par les allocations au logement, les bourses d'études, etc. Et le dernier argument sur le fait que la solution à deux États semble quand même assez compliquée à mettre en place, en plus du fait qu'elle oublie donc la question des réfugiés et la question des discriminations contre les Palestiniens d'Israël, c'est le fait que Israël, par sa colonisation, a tout fait pour segmenter le territoire palestinien et pour l'annexer. Il y a 700 000 colons israéliens en Cisjordanie, il y a un territoire complètement morcelé, sans continuité, etc. Donc dans la vie réelle, au-delà de la diplomatie, etc., ou des proclamations, ou de l'agenda médiatique, les gens sur place demandent une plus grande liberté de circulation, demandent la fin des checkpoints, demandent le démantèlement du mur, demandent de pouvoir revenir dans leur ville et dans leur village d'origine. Et le paradigme qui se pose, c'est beaucoup plus celui de la fin de l'apartheid, en fait, ou de la fin de la segmentation du territoire. Et donc en se disant, bon, bah, dans quel cadre il peut y avoir une structure binationale qui reconnaisse les deux peuples, avec pourquoi pas chacun son parlement, chacun sa représentation linguistique, culturelle, politique, etc. Et en même temps, quand même, une structure et l'idée qu'il y a quand même quelque chose de commun et un territoire sur lequel il y a deux peuples, en fait. Pas l'idée qu'on va faire deux États, c'est-à-dire un où il y a 80% du territoire qui parque une partie de la population de l'autre sans aucun droit, quoi, comme c'est aujourd'hui.
Donc en fait, ce que s'apprête à reconnaître la France la semaine prochaine avec d'autres pays, pour toi ça sert à rien?
Bah, c'est symbolique, c'est minimal. Ça permet de reconnaître qu'il y a un peuple palestinien qui a des droits politiques, qui est occupé. Ça pourra servir d'argument pour dire à l'État français, bah, vous avez reconnu un État qui est occupé, qu'est-ce que vous faites contre cette occupation-là? Comment vous mettez en place des sanctions? Comment vous jugez les criminels de guerre ou les génocidaires? Ça peut servir d'argument, les symboles, c'est pas rien. Et en même temps, faut pas être dupe des manœuvres diplomatiques. Parce que, par exemple, la dernière conférence de l'ONU en août dernier, elle devait avoir pour ordre du jour d'appliquer toutes les résolutions de l'ONU, dont celle sur le droit au retour des réfugiés, dont celle sur la fin de l'occupation, etc. Donc c'était l'ordre du jour, c'était comment on applique les résolutions et donc comment on contraint Israël. Et la France et l'Arabie Saoudite ont fait en sorte que les deux seuls sujets, ce soit d'une part la reconnaissance de l'État et d'autre part le cessez-le-feu. Et c'est-à-dire quelque chose vraiment de au rabais et minimal et donc pas concret en fait. Parce que c'est quand même beaucoup plus concret de se dire quelles sanctions économiques on met, quel embargo on met sur les armes envers Israël pour libérer les Palestiniens que de se dire comment on reconnaît un État pour se faire plaisir et sauver sa propre image et sa propre conscience au regard de l'histoire.
Une petite virgule musicale ?
Ouais.
T'as une suggestion peut-être?
Bah moi j'ai ramené des morceaux de Saint Levant, qui est un rappeur palestinien qui rappe à la fois en français, en arabe et en anglais.
On enchaîne les deux direct?
Ouais, c'est des morceaux assez courts, je crois.
Ouais. Et bah Saint Levant maintenant dans Frison.
Heures du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nulle part. Je me sens chez moi nulle part. Yeah. عيلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش me sens chez moi nulle part. I don't feel at home, oh no. It's been calling my name, but I don't feel at home, oh no. It's been calling my name, my name. It's been calling my name, my name. 5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nulle part. Je me sens chez moi nulle part. Yeah. عيلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش me sens chez moi nulle part. Je me sens chez moi nulle part. It's been calling my name, but I don't feel at home, oh no. It's been calling my name, but I don't feel at home, oh no. It's been calling my name. Calling my name.
I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be false, clean, is to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like a tourist if I ever went back. From Gaza with love. Gaza with love, baby. فلسطين عسن ساز وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I don't mean to come off too strong, but it's the falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like a tourist if I ever went back. From Gaza with love, if they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby, فلسطين عسنساز وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas. Pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas.
The battle of good versus evil is never ending.
But also there are real fears on the part of Arabs, and I'm sure you talk to a lot of them, who think once Gazans leave Gaza, Netanyahu's never going to let them back in.
Maybe, but I'm not sure there's much left of Gaza at this point, so...
We get to the crescendo, land of the free, hold that high F.
Slavery.
We built this city on
cursed land.
Genocide.
Graveyard.
This is wrong.
2020.
Explosively one-sided propaganda.
History is a nightmare from which I'm trying to awake.
God is God. Is God. Is God. God.
Looks like you're off to a great start.
God is God. Yes, God. Yes.
You know we built this city, right?
God is God. Yes.
Hate and genocide.
Everything, think about everything. It was really actually planned. Establishing concentration camps.
Get rid of the Muslims.
Yeah.
And
Gaza's
waterfront property. It could be very valuable to if people would focus on kind of building up.
So terrorize them, kill as many as possible.
Yes.
Make them suffer.
Push as many
possible.
Of them into as small an area as possible so they can seek the rest.
Turn this city into a concentration camp.
When all the paperwork on this job disappeared.
Times, conspiracy to overload the mind. Behind every fortune there's a crime. Behind every fortune there's a crime. Conspiracy, this technique is tech now. Last sign of the times. Conspiracy to overload the mind. Behind every fortune there's a crime. Behind every fortune there's a crime.
Because America is a crime story.
Whoops.
Because of man.
Fucking burn your whole shit to the ground.
Burn the shit down, the shit down, the shit down.
You're gonna die.
do you think will happen?
In all likelihood, nuclear holocaust.
Wait a minute. I'm the smartest guy in the world?
Field manual.
Love his sample.
Inspired me to go into politics.
Fuck the world.
Some sort of master disguise.
Well, they don't all wear a ghillie suit. We'll creep around.
Just keep your picker hard and your powder dry, and the world will turn.
Jour. Oula.
Oui, pardon, désolé.
Ouais, t'étais absorbé par ton propre morceau.
Oui, on enchaînait deux morceaux de Saint-Levant, si tu veux revenir dessus un peu.
Donc c'est un rappeur palestinien qui a grandi à Jérusalem, qui maintenant vit soit en Europe, soit aux États-Unis, dont le père a passé une partie de sa vie à Gaza notamment. D'ailleurs, l'avant-dernier album, le nom de l'album, c'est le nom de l'hôtel que gérait son père à Gaza, qui a été détruit comme à peu près tout à Gaza. Et donc il rappe à la fois en français, en anglais, en arabe, et il a fait une tournée en France l'été dernier. Le premier morceau s'appelait 5 AM in Paris, et le deuxième From Gaza with Love, je crois.
Voilà, et le dernier morceau, celui qui vient de se terminer, c'était Bomb 20. Alias David Skiba, un berlinois qui sévit depuis longtemps sur la scène digital hardcore, breakcore, tout ça, et là qui a sorti cet album, cette EP début 2025, mais enregistré en 2024 suite aux événements à Gaza. Et voilà, à base de samples, et voilà, une bande son de résistance qu'on vous conseille vivement.
Et alors que Vision déplorait le génocide, toi Ludo, tu regrettais la fermeture de ton épicier qui vendait des canettes fraîches.
Mais oui.
Tu te sens pas un peu mal, quand même?
Ouais, il y a chacun son combat, quoi, mais ouais.
Non, je pense que ça s'oppose pas. Là, je pense à Foucault qui disait « N'imaginez pas qu'il faut être triste pour être militant ». Donc ouais. On peut aussi aimer les boissons fraîches.
Bah oui, on peut se battre pour son épicier et puis se battre pour Gaza pareil, quoi.
Ouais. Ouais.
On peut avoir
enfin, pareil, je dirais
vie,
pas
quoi.
Pareil. Non, oui, les deux sont importants.
C'est
oui.
Pas le même level, mais on peut se battre pour plein de choses
en même
temps.
Oui, oui.
Mais là, tu touches un vrai sujet, selon moi. C'est la question de lutter dans la joie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe à Gaza, mais t'évoquais rapidement l'Ukraine tout à l'heure, et il y a tellement de malheurs dans le monde aujourd'hui et de violences, y compris en France. Comment est-ce que toi, tu milites? C'est-à-dire, en fait, comment t'essaies de faire évoluer modestement les choses et puis de garder une certaine santé, tout simplement.
Ce que je vais dire déjà, en préambule, c'est des choses générales que je pense, ce qui ne veut pas dire que je suis un modèle ou que j'y arrive toujours. Mais je pense que, en effet, faut essayer quand même de garder certains affects joyeux et de jamais ni oublier ses propres affects, ni son propre désir, c'est-à-dire ce qui nous pousse à lutter. Quand on dit non à des choses, quand on combat des choses, on lutte aussi en positif parce qu'on aspire à autre chose, quoi. À la fois autre chose dans le futur, je sais pas, l'égalité, la justice, etc. Mais aussi des choses à la vie, de la vie auxquelles on tient dès maintenant, en fait, et qui peuvent être attaquées. Si par exemple on augmente le temps de travail, bah, de fait, il y a certains rapports à l'amitié, à l'amour, à la culture, à la sexualité, etc., qui sont attaqués parce que les gens ont moins de temps, sont plus fatigués, ont plus de difficultés à se rencontrer. Quand les prix augmentent et pas les salaires, c'est des difficultés à sortir et à se faire des amis ou à draguer ou je sais pas. Donc je pense qu'il faut, il faut jamais s'oublier, quoi. Et je suis souvent gêné dans certains discours militants qui, par exemple, parlent relativement peu de la vie quotidienne ou des affects ou des désirs, etc. Et aussi, peut-être faire attention au ressentiment, quoi. C'est-à-dire pas seulement voir le problème comme quelque chose qui serait extérieur à nous, des gens qui seraient foncièrement mauvais, c'est-à-dire en développant chez nous uniquement des affects négatifs, ressentimentaux, et qui nous pousseraient limite à nous affaiblir. C'est-à-dire à dire je suis dans une position d'impuissance, donc tout ce qui est fait est insatisfaisant. Moi je suis pur, et je suis tellement pur que je peux rien faire parce que je suis parfait, etc. Et que donc je vais pas me salir les mains, etc.
Oui, oui, il y a de quoi céder à la déprime.
Ouais, non mais carrément. Et peut-être qu'il faut trouver justement dans l'action des choses qui nous font plaisir et qui nous conviennent, quoi. Donc par exemple, si des gens, en fonction de ce qu'ils aiment faire, et bah c'est, je sais pas moi, organiser un concert et donner les thunes à tel asso, bah qu'ils fassent ça, en fait. Si d'autres c'est écrire un texte, si d'autres c'est aller en musique et gueuler des trucs, si c'est faire des autocollants qui leur semblent marrants, etc., faire ça, et ouais, en assumant son désir, ses affects, en se disant que la lutte c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, etc., et pas seulement juste un truc sacrificiel par rapport à un objectif qui sera extérieur à nous, à long terme, etc.
Et hier, l'ambiance à la BAM, c'était comment?
Ça dépendait des moments, mais en général, il y avait quand même quelque chose de plutôt cool, quand même. Parce qu'il y avait l'idée de faire vivre une culture, en fait. Mais par exemple, moi, quand je parle en public, j'assume de dire que j'aime bien ça, déjà. Je me sens plus à l'aise en faisant ça qu'en faisant autre chose. Donc, c'est ça que je fais, par exemple. Donc, ça répond déjà un peu à la question de assumer, voilà, et pas trop se sacrifier. Et évidemment, il y avait des moments d'émotion, etc. Par exemple, il y avait un gars qui se prénomme Bachar, donc qui est un Gazaoui, qui est en ce moment soigné à Rennes. C'était le premier soir où il avait l'autorisation de sortir de l'hôpital pour voir en fait le film d'Iyad Al-Estal qui était diffusé, pour lequel il a servi de fixeur à Gaza. Donc un fixeur, c'est dans une zone de guerre, celui qui fait le contact, en gros, qui met
qui fait l'intermédiaire. Celui qui accompagne les journalistes pour aller aux endroits où ça se passe.
Ouais, ou qui leur donne les contacts parce qu'il connaît les gens, etc. Donc il a servi de fixeur pour ce film-là. Il a donc été victime d'un bombardement dans un café sur la plage de Gaza il y a quelques mois, dans lequel, en gros, se retrouvaient les jeunes de Gaza, la jeunesse culturelle, les blogueurs, les journalistes, les artistes, etc., qui était un cybercafé, voilà. Donc il y a eu un certain nombre de morts, notamment des journalistes. Lui, donc, qui était danseur, a eu la jambe sérieusement abîmée, pour le dire de façon euphémistique, et donc il est soigné en ce moment à l'hôpital de Rennes. Et donc lui, c'était la première fois qu'il voyait le film. Moment d'émotion. Donc il y avait aussi ces trucs là, quoi. Et il y avait quand même cette joie de la rencontre, cette joie d'être ensemble, cette joie de dire bon bah à notre petite échelle on fait quelque chose, on récolte 3000 balles qu'on envoie à une ONG, et aussi peut-être une jouissance du savoir ou de la compréhension, enfin je sais pas comment le dire autrement, mais c'est une chose de voir des gosses qui meurent et de se dire c'est horrible, c'en est une autre de quand même s'en sentir un peu plus fort parce qu'on arrive à comprendre historiquement très précisément ce qui se passe.
Mais ça, c'est quelque chose qui m'a frappé récemment, c'est-à-dire que bon, bah, si on regarde les informations ou si on les écoute, on a abreuvé de tout un tas de choses. Mais se poser, par exemple, on n'en a pas parlé, mais la géographie, c'est-à-dire... où est la bande de Gaza, où est-ce que ça se situe, où est la Cisjordanie, qu'est-ce qui se passe entre deux, c'est quoi les territoires colonisés, bon, et je passe sur toutes les résolutions de l'ONU qui déterminent que la frontière elle est là, puis elle est là. C'est déjà effectivement mieux comprendre le monde, quoi.
Ouais.
Et enfin le terme que t'as posé, il était fort jouissant, c'est-à-dire en fait comprendre le monde c'est aussi très satisfaisant.
Ouais ouais, il y a toute une littérature psychanalytique même qui fait le rapport entre la jouissance sexuelle et le plaisir à prendre la parole en public, donc
merde.
Peut-être que ça me concerne, je sais pas, mais et c'est peut-être aussi une manière que j'ai eu de tenir quoi. Parce que je connais des gens à Gaza, je prends des nouvelles, des moments ils répondent pas parce que il y a trois jours les services de télécommunication étaient bombardés. Voilà, c'est une manière quand même, ouais, de mieux comprendre et donc quand même dans la compréhension, dans la compréhension, dans l'étude des faits, il y a quelque chose qui est moins passif que l'effarement par rapport au crime. Et donc voilà, peut-être que je deviens une sorte de maniaque de la factualité et du détail en sachant quel quartier a été bombardé quel jour. Voilà, mais c'est ma manière de tenir. J'enjoins pas à chaque personne
quartier,
à faire de ça.
Quel quartier n'a pas été bombardé?
Oui, non, mais
c'est
non, évidemment.
La question.
Non, mais évidemment. Et donc, ouais, voilà, donc sans aller jusque-là, et bon, en ce qui me concerne, peut-être que oui, on peut citer là aussi un certain nombre d'interprétations psychologiques disant que parfois dans des moments de stress, d'anxiété, on creuse ce qu'il y a déjà en germe chez nous. C'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un en général d'assez précis, j'aime décortiquer, etc. Et peut-être que je fais ça encore plus à propos de la Palestine en ce moment. Donc voilà, sur ma manière peut-être de tenir à moi en ce moment et de pas devenir fou, il y a un peu de ça. Toute proportion gardée dans les proportions bien moindres, par exemple les étudiants de Sciences Po, aussi parce qu'ils sont à Sciences Po, parce que c'est leur culture, que c'est leur rapport aux choses, etc. Eux, ils s'intéressent et militent en organisant des conférences, en prenant la parole, en expliquant et eux-mêmes en comprenant plus précisément petit à petit ce qui se passe. Et en récoltant de l'argent et en se sentant utile là-dessus, donc à la fois ils sont contents d'apprendre des choses et ils sont contents de se sentir utile en finançant une ONG quoi. Et en même temps, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de savoir situer sur une carte les villes de la bande de Gaza du nord au sud dans l'ordre pour avoir une indignation et avoir des principes éthiques qui nous poussent à manifester. Enfin évidemment quoi, on n'est pas, il y a pas de diplôme à l'entrée. Enfin évidemment,
oui.
On peut très bien prendre conscient du fait que c'est une population civile qui est ciblée dans sa totalité et militer et manifester contre ça de temps en temps sans culpabiliser sur les jours où on n'est pas là, mais venir de temps en temps quand on peut, quand on veut, etc.
Oui, oui.
Et sans se justifier de connaître ceci ou cela et d'avoir toutes les dates.
Hein. Le terme de génocide là qui vient aussi d'être posé clairement par l'ONU et qui faisait débat en France encore il y a pas si longtemps.
Ouais, par une commission de l'ONU, ouais, une commission mandatée par l'ONU. Non mais même il y a des ONG israéliennes comme B'Tselem ou les médecins pour les droits humains par exemple. Oui, ou même par exemple il y a une semaine c'est un magazine israélien qui s'appelle Plus 972 qui a obtenu les chiffres de l'armée israélienne elle-même sur le nombre de morts civiles et c'est 83%. Et en fait, c'est un chiffre de très très loin supérieur à toutes les guerres de ces dernières décennies.
C'est-à-dire 83%.
83% de civils à l'intérieur des morts. C'est 17% de militaires, selon l'armée israélienne elle-même. Sachant qu'elle a un rapport très très extensif à ce que sont les terroristes, comme elle dit. C'est-à-dire un flic qui fait la circulation à Gaza, comme c'est le Hamas qui gouverne Gaza, pour elle c'est un terroriste. Mais même en reprenant leurs critères, c'est 17% seulement et 83% de civils. Et faut remonter au Rwanda et à la Bosnie, à Srebrenica, pour retrouver de telles statistiques. Et dans les deux cas, ça a été reconnu comme un génocide et jugé comme tel.
Ouf.
Et au-delà de ça, il y a aussi un des autres critères quand même pour parler du génocide, c'est la destruction du groupe social et la destruction de la possibilité de vivre. Donc par exemple, les entraves à la procréation, les bombardements, les destructions des maternités par exemple. Le fait de cibler en tant que tel les femmes et les enfants pour empêcher la procréation. Le fait de entraver à peu près tout ce qui fait l'existence, donc l'organisation de la famine. Le fait de bloquer les distributions humanitaires. Il y a un an, il y avait 400 points de distribution humanitaire à Gaza, il n'y en a plus que 4. Et par ailleurs, ils ne sont pas n'importe où, ils sont au sud de la bande de Gaza, parce que c'est là qu'Israël veut concentrer les Palestiniens en vue de les expulser ensuite. Toutes les ONG humanitaires ont dénoncé ça en disant que c'était à la fois une manière d'utiliser la famine comme arme de guerre et aussi une manière d'instrumentaliser l'aide humanitaire pour déplacer les populations pour ensuite commettre un nettoyage ethnique en les expulsant. Il y a la destruction d'à peu près tout ce qui fait la vie civile, quoi, la destruction des centres de collecte des ordures, des hôpitaux, des écoles, etc. Donc une destruction du groupe social en tant que tel, le fait de rendre l'endroit invivable, enfin littéralement invivable. Et donc c'est ça qui fait un génocide aussi, ça fait partie des critères.
Et toi, qu'est-ce que tu pense de la situation, enfin du soutien, j'oserais dire, géopolitique mondial, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a Trump, il y a d'autres grandes puissances.
Il a des projets immobiliers à Gaza, je crois.
Ouais, mais c'est un ministre israélien qui a dit il y a quelques jours qu'il faudra vendre Gaza aux États-Unis parce que, quand même, l'armée israélienne a dépensé beaucoup d'argent pour détruire l'endroit, ce qui est, je cite, le premier stade et la première étape de la rénovation urbaine. Et ce qui coûte le plus cher, et que donc il faudra que Israël aussi perçoive des taxes là-dessus. Il l'a dit tel quel.
Mais est-ce que à quoi c'est dû cette espèce de comment dire de soutien d'Israël à l'extérieur d'Israël?
Bah des intérêts communs, je pense. Il y a des intérêts de projets immobiliers. Enfin, par exemple, c'est le fils de l'ambassadeur américain en France qui est un mania de l'immobilier comme Trump d'ailleurs et qui a la volonté d'avoir des projets immobiliers à Gaza en lien avec Tony Blair notamment qui est dans tous les bons coups des cas des massacres commis par les États-Unis.
Ouais,
il fait en ce moment le tour du monde, etc. Pour,
Tony Blair
Ouais. En lien avec justement le fils de l'ambassadeur.
Socialiste.
Tu me rappelles, Guillaume, faut qu'on l'invite.
Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup quand même des crimes du communisme et les crimes de la social-démocratie, on en parle un peu moins. Donc Tony Blair, ouais, après avoir suivi Bush dans la guerre en Irak
ouais.
Aujourd'hui, donc, suit le fils de l'ambassadeur américain en France et Donald Trump sur la question de la reconstruction de Gaza au bénéfice des États-Unis, etc., après le nettoyage ethnique. Donc il y a déjà cette histoire d'intérêt immobilier. Beaucoup plus largement, il y a énormément d'entreprises de la tech et de l'armement qui ont évidemment intérêt à cette guerre. Des entreprises d'État qui ne l'assumeraient pas publiquement, mais comme par exemple l'Arabie Saoudite. Et ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus géopolitique, qui est que les États occidentaux ont toujours voulu un allié dans cet endroit du monde, c'est-à-dire Israël qui menace tous les États arabes aux alentours, et c'est utile d'avoir un relais militaire, un allié à ce moment-là et des menaces de guerre quand il faut négocier pour l'accès au pétrole et négocier voilà. Et sinon, les États arabes aux alentours, bon, bah, ils ont parfois des intérêts économiques avec Israël. Par exemple, pour l'électricité, l'Égypte dépend du gaz israélien. C'est 30 milliards de contrats qui ont encore été re-signés il y a quelques mois. Ce qui fait que l'Égypte maintient aussi le blocus de Gaza de son côté, par exemple.
Est-ce qu'on écoute de la musique pour digérer un peu?
Oui, et puis toi aussi, Guillaume, t'es venu avec du son. Et tu me parles de Petite Sœur depuis tout à l'heure. Tu me dis
Petite Sœur, une rappeuse de la région parisienne. Alors je pense que si elle était là, elle accepterait pas le terme de rappeuse. Je sais pas ce que c'est. L'album est complètement fou. Donc je propose d'en écouter un extrait. C'est sorti cette année.
It's time. I smell blood.
What?
Du pas
Et tout ça quand là tu t'as assez. De tous ces cas tu l'as assez.
De tous ceux qui t'ont déchaté.
Qu'a refusé le châtiment.
Je suis toujours proche du bâtiment. C'est
shut, no sound. Please don't tell me you bound. When it all crash, you bounce. 20 feet tall, keep count. Hypocrites gon' keep drowning. Feet don't touch the ground. And I keep running like prom. And now we finally live. Pockets finally live. But I believe, finally, yeah.
You better watch your mouth. You gon' fuck around and find out. Dead presidents, my enemies. We gon' cash out. And we about that action. Fully loaded with the Mac. Here we be, Bobby Steel, shotgun, lion, fist, with the black. All you other copycats. Shit is lame, shit is whack.
Vous êtes toujours sur France Inter avec Léa Salamé et Nicolas Demorand. Nico, ça va ?
Ouais, ça va bien Léa. on vient d'écouter deux morceaux. Le premier c'était, ouais, Petite Sœur, surprenant, grosse claca, ça donne envie d'écouter ouais. Le reste.
L'album, je ne sais pas si je vais bien prononcer, c'est Cut for Zalgo, mais...
Faut dire que oui, les morceaux sont orthographiés avec des caractères, c'est
des caractères, très... voilà, on ne sait pas d'où ça vient, c'est assez... Ça fait quelques années, hein, elle a déjà fait plusieurs albums, je sais pas ce que c'est hyper pop, ça mélange plein de choses, c'est très numérique, que t'es dans tous les sens, distordu dans tous les sens, c'est assez impressionnant.
Et à l'instant, c'était Aurore qui aime bien marier les genres aussi, entre rap vénère, hardcore, techno, électro et d'autres choses encore. Là, c'est extrait de leur tout dernier album qui est sorti ce mois-ci. L'album, c'est Today We Escape et on a écouté le morceau Incline avec pas mal de featuring sur ce morceau-là. Et globalement, sur l'album, il y a pas mal de gens qui interviennent. Et là, sur le morceau qu'on écoutait, il y avait Pink Sifu qu'on a eu la chance de voir à l'Antipode et c'était une soirée monumentale, énorme. Et également sur ce morceau, Nova Twins et Young Skirt. Voilà. Incline, le Aurore.
On poursuit avec toi, Vivian. Tu voulais nous parler donc de cette flottille. Une quarantaine de bateaux tentent de briser le blocus et d'approcher de Gaza.
Ouais, ils sont une quarantaine en mer en ce moment. Ils vont être bientôt rejoints par d'autres bateaux qui vont partir dans les prochains jours.
Ils sont rendus où géographiquement?
Ça dépend desquels. Il y en a qui sont pas loin de l'Italie, d'autres qui approchent de la Grèce. Ils en sont là.
C'est une initiative
De plusieurs campagnes qui se sont coalisées. En fait, c'est trois coalitions, notamment. À la fois ceux qui avaient lancé les précédentes flottilles, parce qu'en fait, ça fait 20 ans que Gaza est sous blocus et 20 ans que fréquemment, il y a des bateaux qui vont vers Gaza pour rompre le blocus. C'est arrivé quelques fois même que les bateaux arrivent jusqu'à Gaza. C'est arrivé plus souvent qu'ils soient attaqués par l'armée israélienne, mais il y a un certain nombre de bateaux qui sont déjà passés. Donc c'est à la fois cette coalition-là de la flottille de la liberté. Le deuxième pôle, c'est celui du convoi. Un convoi à pied qui avait parcouru le Maghreb, dans plein de pays du Maghreb, cet été, pour demander la levée du blocus de Gaza. Et c'est donc ces gens-là. Et le troisième, ce sont les gens qui se sont regroupés en Égypte cet été pour demander aussi la fin du blocus de Gaza maintenu par l'Égypte. Donc c'est ces trois pôles qui chacun regroupe un certain nombre d'associations, de syndicats, etc. Par exemple, il y a des gens de la CGT sur les bateaux, comme un certain nombre des bateaux sont partis en Tunisie, donc l'UGTT qui est le principal syndicat tunisien a aussi été très actif, etc. Il y a des acteurs, il y a Adèle Haenel, il y a Liam Cunningham qui est un des acteurs de Game of Thrones, je crois.
Je connais pas celui-là.
Moi non plus, mais je le connaissais pas en tant qu'acteur. Voilà. Il y a des députés de la France insoumise, il y a des députés d'autres pays aussi, il y a des syndicalistes de tous les pays, des militants associatifs, des blogueurs, etc. Et donc voilà, donc ils sont partis d'Italie, de Barcelone et de Tunisie. Ça n'a pas été sans difficulté, parce qu'il y a eu des attaques contre des bateaux.
Ah bon ?
Ouais, il y a eu quelques trucs. Il y a eu déjà des tentatives de sabotage la nuit, etc. Parfois des bateaux abîmés, retrouvés le matin. Il y a eu des attaques par drone, avec des engins incendiaires lâchés des drones, deux soirs de suite en Tunisie. Ce qui évidemment a occasionné des réparations et donc a retardé le départ. Et il y a eu aussi, en amont, il y avait eu des menaces, des pressions sur des gens qui avaient été repérés comme voulant vendre leur bateau, voulant le prêter pour cette flottille-là. Donc voilà, mais ils ont pu partir, et donc là c'est une quarantaine de bateaux, et il y a un certain nombre de gens, d'associations, etc. qui les soutiennent, et il y avait eu des manifs assez massives à Rennes la dernière fois que la flottille, au bord de laquelle il y avait notamment Greta Thunberg et Rima Hassan, qui sont de nouveau en mer.
On se souvient du traitement médiatique assez incroyable.
Ah ouais, non mais c'était hallucinant quoi, genre cette manière de faire diversion en spéculant sur les intentions des gens. C'est-à-dire en disant, ah mais regardez, elles ont communiqué sur leur initiative. Oui, bah heureusement qu'elles ont communiqué. Enfin, d'une part, qu'il y a 15 ans, quand même, il y a un bateau qui avait été attaqué par l'armée israélienne. Il y avait 10 morts. Donc, heureusement qu'ils communiquent et qu'ils visibilisent pour se protéger. Et d'autre part, évidemment, oui, en effet, qu'on organise une action politique.
C'est un peu un des buts de justement de le.
Bah oui, il y avait un truc extrêmement méprisant de. Ils se font mousser sur Instagram, etc. Je sais plus quels étaient les termes utilisés, mais
c'était la croisière selfie. Et tout ça qui sont des éléments de langage.
De l'armée israélienne.
Ouais, de l'armée et de l'ambassade israélienne, quoi. Et évidemment, enfin, c'est assumé tel quel par la coalition de dire. Le but, il est aussi médiatique et politique, il est de visibiliser le génocide à Gaza et de parler plus de Gaza que de nous. Enfin, donc évidemment qu'il y a une dimension médiatique. Enfin, mais quand Luther King organisait des sit-ins contre le racisme et la ségrégation, c'était aussi médiatique. Bah oui, oui. Et donc quoi, en fait? Et donc voilà. Et donc comme ça fait parler, etc. En plus là, c'est une initiative internationale. Enfin, c'est parti d'une quarantaine de pays avec des syndicats, des associations, des partis politiques d'une quarantaine de pays. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura, si la flottille est attaquée, des manifestations massives partout dans le monde, quoi. Et ce qu'on s'est dit à Rennes, c'est de réitérer ce qu'on avait fait la dernière fois. On était quand même 3000 places de la mairie. La dernière fois que la flottille au bord de laquelle il y avait Rim Hasan et Greta Thunberg avait été arrêtée dès le lendemain, et donc là ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se retrouve à 18h à République après l'attaque de la flottille, si elle est attaquée et qu'elle va pas juste à Gaza, quoi. Donc si elle est arrêtée le matin ou l'après-midi, on se retrouve le soir même à 18h à République, et si elle a arrêté dans la soirée, bon, bah, c'est le lendemain à 18h à République.
Et pour ceux et celles qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut trouver l'info?
Bah donc là je l'ai donné, vous pouvez noter déjà que si vous entendez dans les médias que la flottille est attaquée le soir même, vous pouvez aller à 18h à République. Sinon, pour s'informer, bah vous pouvez suivre par exemple le compte de Rennes Palestine sur Instagram. Sinon, il y a un site de l'actualité rennaise des mouvements sociaux, plus largement, pas seulement sur la Palestine, qui est expansive.info, où il y a un agenda, il y a à la fois des communiqués, des associations, des collectifs, etc.
Ok. Est-ce qu'on poursuit en musique ? Ludo.
Oui, mais oui, tout à fait, on peut. Oui, pardon. On peut pour son musique. T'as envie de passer du son.
Ouais, t'as une idée derrière la tête. Bah, je repensais à cette idée de lutter dans la joie. J'avais envie de passer. Bon, c'était l'année dernière, mais c'est une personne qui a été bretonne, qui a vécu à Rennes et aussi à Fougères, et qui, dans sa jeunesse, faisait partie. Du conseil régional des jeunes, et qui était présidente de la commission culture du conseil régional des jeunes, et qui a fini par faire un single qui est devenu single de platine. Ça s'appelle Congolise sous BBL. Tu sais ce que c'est BBL, Ludo?
BBL, là non, je l'ai pas.
C'est l'opération pour se faire grossir le cul, hein.
Mais putain, mais tu sais tout.
Mais en fait, j'ai posé cette question-là hier.
Et c'est quoi l'acronyme, c'est...
Je sais pas, mais en fait, si vous voulez l'anecdote, c'est
une... Brazilian Butt Lift.
Et okay. Ben en fait, il y a eu des étudiants de Sciences Po qui ont été convoqués parce que, enfin en fait, ils vendaient je sais plus quoi, il y avait un code promo, et le 10 septembre, jour de la manif, ils avaient choisi que le code promo ce serait ACAB. Et donc ils ont été convoqués par la direction de Sciences Po.
Alors que s'ils avaient eu BBL.
Et bah voilà, promo. Et bah la fois suivante ça a été BBL.
C'est comme ça
que. Et donc c'est hier que j'ai dit à une étudiante de Sciences Po, mais ça veut dire quoi BBL? Et elle m'a répondu. Et j'ai dit, ah oui, d'où la chanson de Théodora, Congolaise ou BBL, que je connaissais quand même.
Ah oui, voilà. Donc là tu justifies, ouais, je connais BBL par ce biais.
Parce
quoi.
Que je fais des soirées culturelles basées sur l'érudition.
Pour te ref. Non, pardon.
Non, j'ai pas fait ça. Non. Bah en plus maintenant, ici ils sont bloqués. Ok, en France, on est censuré.
On écoute Théodora.
Je vole ton mon sexy. Je vole ton
baby pour juger, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Je vaux beaucoup, même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolise, baby aimerait sa bille, yeah. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolise, baby aimerait sa bille, yeah. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je l'ai tué puissant suite, telle une réacule. Ils m'ont pris, m'ont dit, j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky mal poli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre, elle n'est jamais ramolli.
Trop sexy, ouh, 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 ouh. J'ai volé ton, ouh, 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 ouh. Trop sexy, ouh, 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 ouh.
spirit. Bila shaka nimefurahi nimejifanya. Najisikia kureshewa. Style yangu kwenye meteke. Skin yangu so melanated. Napenda tu kujisubrenade. Pate yangu eldemeshwa. Na nywele yangu imeshikwa. Sijui kama tuko related. Dirisha ya gari yangu ni kivole. Kama tuliwaji tarehe. Kasumu na mtoto walienua. Alienua. Hodi, 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 hodi nimefika. Hodi nimefika, hodi, 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 hodi nimefika. Hodi nimefika. Mambo, vipi kaka, tazmi kitaka mime. Niko hapa, pesa mina wapa fala. Mina chapa, yala mina nata. Yala, yala, yala mina nata. Yala, yala, yala mina nata. Mali nimetoka kuna chapa. Ukikaki, fala tunakata. Saa unapata kula wale, mastasta mime. Kwenye ride mkisuka, uweze kupakizi mambao. Kabupa, tafuta uba, akupeleke kwa kapuka. Hodi, 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 hodi nimefika. Hodi nimefika, hodi, 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 hodi nimefika. Hodi nimefika. Hizi hizi juice nimelipa. Hizi hizi shoes nimeziva. Hizi hizi food nimeshiba. Mina shuti, hizi vida. Hizi mira, siku yuzi tuna manjiva. Zimeiva, lazima tukule nyaba na pizza. Naziishi kabisa. Lia freedom, madiba. Nima lazi, adida, nima vazi. Napima, usigizi, nasima. Sirikali, nastaki. Nasiingizi, majina. Samahani, sirudi ndani, why? Ha, nabaki kwa bima. Hodi, 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 hodi nimefika. Hodi nimefika, hodi, 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 hodi nimefika.
Mais que venons-nous d'entendre à l'instant sur le canal B de Le Frisson ?
Juste après Théodora et le Congolais sous BBL, c'était à l'instant, c'était MC Yala, le nouvel album qui est sorti en juillet. L'album s'appelle Gaudencia et on a écouté le titre Wantintina. Et en fait, c'est MC Yala accompagné de Dubmaster. Dubmaster, c'est le mec qui fait toutes les prods derrière. Voilà, c'est de la grosse tuerie. On en a déjà passé ici du MC Yala. Allez écouter l'album et si vous découvrez, allez écouter le reste aussi.
Ok. Et donc, toi, Vivian, tu disais que c'était un nom de code pour les Sciences Po, le BBL.
Ça a été un code promo sur je sais plus quel truc que vendait je sais plus quel asso. Voilà.
Et ça a mieux marché que ACAB ou...
Je sais pas, j'ai pas de statistiques.
ACAB BBL, on peut faire un mix. Hein.
J'ai pas ce rapport factuel à la vie de Sciences Po comme j'ai à Gaza, je suis désolé.
Un jour, on en reparlera de ce ACAB. Moi, j'aime pas tellement ce slogan.
Je pense que ça aurait jamais dû passer à l'oral, par contre. Les gens qui gueulent ACAB en manif, de manière comme un mantra, on se lasse de tout, quoi.
Moi, je trouve que, donc, All Cops, Art Bastard, bon, déjà, la bâtardise, c'est quelque chose de beau, ça se rapproche du métissage et de la créolisation, ça devrait pas être une insulte.
C'est vrai, après, on n'est pas obligé d'avoir un rapport littéral au langage. Il y a le sens au contexte, tu vois. Quand des supporters disent arbitre enculé, ils pensent pas vraiment à l'acte, quoi.
Ouais, mais c'est bien que ça évolue quand même, non ?
Oui, oui, on peut aussi utiliser les mots dans plein de sens différents, quoi. Moi, je ferais pas la police à ce niveau-là. Après, moi c'est plus ce réflexe, quoi. Quand on dit toujours la même chose, bon, bah, à un moment, on arrête de penser, quoi. C'est plus ça, voilà, qui me gênerait, quoi.
Ouais, c'est le principe du slogan.
Oui, 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 oui. Après, il faut des slogans, évidemment, pour fédérer dans une manif et tout. Enfin, je suis pas la police du slogan non plus, quoi. Mais oui, faut varier, faut pas que ce soit tout le temps la même chose, et voilà. Après, faut pas non plus dire arrêtez de faire chier avec vos slogans, parce que c'est encore la même chose, quoi. Enfin, les gens qui tournent en boucle sur un slogan comme ceux qui tournent en boucle sur arrêtez avec votre slogan sont tout aussi chiants.
Tu veux nous arrêter ?
Je lève la main, il nous reste une minute d'antenne.
On peut plus rien dire.
Bah si, mais pendant une minute.
Ok.
J'ai vu une belle photo dans Mediapart aujourd'hui sur les manifestations du 18 septembre avec une assez jeune femme, je dirais 20 ans, qui avait une pancarte avec écrit « Il y a tellement de choses à dire que je ne sais plus quoi écrire sur ma pancarte ». J'ai trouvé, ça m'a ému.
Ouais, moi ça m'a ému la pancarte le 17 septembre d'une meuf qui avait « Tana Antifa ».
Explique-nous.
Tana, ça veut dire pute, en gros.
Ok.
Voilà. Et sinon, bah, on se retrouve à 18h à République si la flottille pour Gaza est attaquée.
Espérons que non.
Espérons que non.
Merci Vivian.
Merci à vous. Merci Ludo. Merci Guillaume.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt ici et partout.
Et partout.
Et à la semaine prochaine.
Canal B.
Radio.
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 Canal B.
Radio.